Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la myotrophie spinale infantile ou SMA infantile. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nadia Blougenestine, qui est cofondatrice de l'association ECLA, Ensemble contre la myotrophie spinale de type 1. Madame Blougenestine, bonjour.
Bonjour.
Madame Blougenestine, comment avez-vous été concernée par cette maladie rare qu'est la SMA infantile ?
Nous avons perdu notre fille aînée Daphné il y a 12 ans d'une amyotrophie spinale de type 1, qui est la forme la plus sévère de la maladie. Elle avait un an et nous avons été très tôt conscients de la maladie. Mon mari et ma sœur kinésithérapeute, nous avions des amis dans le milieu médical. Et c'est vrai qu'il a été quand même très difficile au début de faire face à cette annonce qui, à l'époque, était... très difficile à accepter puisqu'il n'y avait pas de solution au niveau de la prise en charge. La maladie était fatale avant l'âge de 2 ans pour la plupart des enfants touchés par ce type sévère. Et il a fallu ne pas passer à côté d'elle et trouver tous les moyens d'être heureux grâce à elle et de la rendre heureuse. Dans ce sens, on a été très bien accompagnés par le monde médical et paramédical qui nous entourait, mais aussi tous les professionnels spécialistes de cette maladie que nous avons rencontrés au fur et à mesure de sa prise en charge d'un an. Et ça nous a permis de relever le défi de lui permettre de vivre sa vie d'enfant en dépit de ses problèmes et de sa fragilité qui était quand même très importante. Donc, elle a vécu une vie heureuse et seules les dernières semaines, quand elle a eu des complications respiratoires, ont été plus difficiles à gérer, mais ça m'a donné de la force aujourd'hui pour m'investir au niveau associatif et puis prendre la parole à de nombreuses reprises pour essayer d'aider les familles qui sont confrontées à cette maladie aujourd'hui, dans un contexte un petit peu différent, mais pas toujours, puisque un certain nombre d'enfants sont encore dans un contexte d'atteinte sévère qui ne leur permettent pas d'espérer une prise en charge qui leur offre un vrai confort et une vraie stabilisation.
Et ensuite, comment s'est articulée la création d'ECLA avec les actions qui étaient déjà existantes depuis plusieurs années ?
Alors justement, j'ai eu l'occasion, à travers tout cet investissement que nous avons donné, mon mari et moi-même, ma famille, pour le confort et la prise en charge un petit peu experte que nécessitait notre fille, de rencontrer... un ensemble de professionnels du secteur médical et médico-social, et notamment les personnes du service régional de notre région, de l'AFM Téléthon, l'association bien connue qui organise le Téléthon chaque année. Et c'est à l'occasion d'une des rencontres avec les différentes familles invitées par l'AFM Téléthon que nous avons rencontré d'autres parents qui étaient également concernés par la myotrophie spinale de type 1, qui avaient également perdu leur enfant à des âges différents, et on avait en commun le fait d'avoir vraiment envie de nous mettre au service des autres pour essayer d'aider les familles suivantes à accompagner leur enfant dans cette situation qui s'appelle dans le jargon le soin palliatif pédiatrique. Et finalement, très vite, on a eu beaucoup d'initiatives pour favoriser le jeu adapté à ces tout-petits, quelle que soit leur atteinte, quelle que soit leur difficulté, quel que soit le pronostic. Et c'est par le truchement de ces idées de jeu adaptées que nous avons décidé de créer l'association ECLA. Alors, en partenariat avec la FM Téléthon, mais indépendante de cette association pour pouvoir représenter ce qui, à l'époque, était vraiment les spécificités du type 1, c'est-à-dire une amyotrophie spinale qui ne permettait pas de se prolonger et de se projeter dans le temps. Et c'est ainsi que notre association s'est créée et a très vite collaboré avec les équipes des centres de référence des maladies neuromusculaires qui prenaient en charge les enfants SMA, amyotrophie spinale infantile, excusez-moi, et que nous avons pu poursuivre nos initiatives sur le jeu adapté aux bébés hypotoniques.
Et quels sont les objectifs de l'association ECLA ?
Alors, il y en a plusieurs objectifs. Il y a les objectifs d'il y a 10 ans, quand l'association s'est créée. et qui existe toujours. Et puis, il y a celui qui a pris de plus en plus de place, c'est-à-dire celui de la prise en charge de ces enfants atteints d'amyotrophie spinale de type 1, puisque nous, on parle vraiment de cette forme sévère de la maladie. On collabore avec les familles et les associations qui représentent les autres types de SMA, mais on ne parle vraiment qu'au nom de cette spécificité-là, puisqu'elle est un petit peu différente. Et cette prise en charge, en fait, elle est basée sur la possibilité à l'enfant de vivre sa vie d'enfant. Je vous parlais tout à l'heure de jeux adaptés aux bébés hypotoniques, mais finalement, que ça soit un contexte de soins palliatifs sans traitement ou que l'enfant ait la chance de bénéficier d'une prise en charge thérapeutique comme elle existe depuis quelques années, qui permet à minima de stabiliser la maladie, on est dans le même cas de figure. L'enfant est un enfant qui, dans ses premiers mois et premières années de vie, a ses besoins de découverte, d'interaction, de développement de ses possibilités. Et celles-là sont parfois possibles qu'avec une adaptation, même minime, pour lui permettre d'être en réussite. Alors, l'hypotonie, je vous en parlais, elle est sévère dans le cas des types 1 sans traitement, mais les soucis de développement des capacités motrices restent quand même présents chez un certain nombre d'enfants qui bénéficient des traitements, même quelques années après.
Et aujourd'hui, quelle est la place d'éclat au sein du paysage de la SMA ?
Elle est dans la continuité de ce que je vous expliquais par rapport à nos initiatives sur le jeu adapté, sur la prise en charge rééducative, sur le confort de l'enfant SMA type 1, c'est-à-dire au cœur de la prise en charge experte. Je pense qu'on a eu la possibilité ces 10 dernières années de créer un certain nombre de supports qui ont été utiles aux familles, mais aussi aux professionnels de santé qui prennent en charge ces enfants. Donc, on a beaucoup échangé et amélioré ces supports et ces ouvrages pour le bien élargi, finalement, au-delà de l'enfant et de ses parents, aussi celui des thérapeutes. Et aujourd'hui, on poursuit cette collaboration que je trouve vertueuse, où on essaye à la fois, un petit peu d'être comme un entonnoir. On récupère notre expertise ou notre connaissance des besoins des familles sur le terrain un certain nombre de problèmes qui peuvent éventuellement trouver une solution. On est en lien avec les centres labellisés et les centres de prise en charge médicales et paramédicales de ces enfants, qui nous rapportent également leurs préconisations, les différentes évolutions qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour eux, dans le cadre de la prise en charge de ces enfants aujourd'hui, dans le contexte que je vous décrivais. Et finalement, nous, on met toute notre temps libre, notre envie, notre enthousiasme, aussi un petit peu notre créativité pour justement faire la somme de ces deux mondes et proposer des solutions. Alors, par exemple, très récemment, on a collaboré avec la filière neuromusculaire pédiatrique à la création d'un ensemble de fiches didactiques sur l'amyotrophie spinale pour aider les familles qui vont être diagnostiquées, dont l'enfant va être diagnostiqué de cette maladie, de tous les tenants et aboutissants de la maladie, de sa prise en charge, quelle que soit la situation de la famille. Alors, on a fait un travail avec la filière et les parents de l'association très précis pour choisir chaque mot, chaque schéma. On a été soutenu par des mécènes qui nous ont permis de faire un travail graphique et d'impression très soigné. Et puis finalement, tous ces membres de la communauté, les associations, les parents, les soignants et l'industrie pharmaceutique, parfois mécène, se sont mis dans le même objectif de création d'un document qui, j'espère, sera utile et aux familles diagnostiquées et aux médecins qui sont en charge du suivi ensuite de ces familles pour à chaque fois trouver les mots et leur permettre de se replacer dans le contexte qui leur convient en fonction de la situation familiale et de l'état de santé de l'enfant. Un deuxième exemple de projet que nous avons conçu avec un centre expert et les parents de l'association, c'est la création de fiches-jeux à l'attention des enfants de 0 à 4 ans atteints de SMA, mais stabilisés grâce au traitement. Et où nous allons présenter, donc c'est très prochain, ça sortira en septembre, à l'attention des familles, mais aussi des équipes médicales et paramédicales qui les prennent en charge, on leur présente tout un ensemble d'activités ludiques, rigolotes, mais adaptées aux besoins fonctionnels de ces enfants, à leurs possibilités en fonction de leur situation et de leur âge. Et finalement, on se replonge dans le monde très occupé de la journée d'un enfant qui est faite de jeux et de découvertes, mais en pensant quand même à soutenir son développement et à maintenir son état de santé la plus stable possible. Donc finalement, on est dans le cœur de ce que je disais, le parent expert, mais le parent et l'enfant avant d'être un petit patient et un parent de petit patient.
C'est un très bel exemple de collaboration. Alors pour conclure, Madame Blougenestine, quel message souhaiteriez-vous faire passer au nom de l'association Éclat ?
Eh bien, c'est un petit peu le résumé de ce que je viens de vous dire pendant ces quelques minutes. En fait, il y a deux points qui me paraissent essentiels. Le premier, et je rebondis sur ce que je viens juste de dire, c'est cette collaboration fructueuse au sein de la communauté entre tous les membres concernés par l'amyotrophie spinale. Et puis, le deuxième point, c'est cette importance, quand on est parent d'un enfant qui a l'amyotrophie spinale, de rester parent tout en étant quand même et en acceptant de devenir expert. C'est que le parent reste un parent qui va s'occuper de son enfant comme n'importe quel parent, mais il va savoir que son enfant a des spécificités, a des besoins qui sont spécifiques, et du coup, va savoir au jour le jour s'y adapter et trouver la meilleure solution pour lui permettre d'être dans le confort positionnel, respiratoire, déglutitionnel, mais aussi dans l'épanouissement, quelle que soit la projection qu'on peut s'imaginer. Et nous, notre objectif, c'est justement d'arriver à mener avec nos initiatives dans ce domaine, les parents à jouer en ayant à l'esprit quand même cette nécessité de s'adapter à la maladie, même quand elle a un traitement. C'est une association au service des enfants, mais avec la volonté quand même de faire évoluer la prise en charge experte de cette maladie. On vit une aventure maintenant avec l'avènement des différents traitements qui ont changé l'histoire naturelle de la maladie, qui ont fait que des enfants qui étaient en difficulté ne le sont plus. Et malgré tout, devant nous, il y a un monde que nous ne connaissons pas encore, mais l'ici et maintenant permet le jeu, donc il faut en profiter. Donc on joue, on bouge, on s'amuse et comme ça, finalement, on retrouve la vie lambda d'une famille qui n'a pas été confrontée à cette maladie.
Eh bien, merci mille fois, Madame Blougenestine, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître cette maladie rare qu'est la SMA infantile. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette pathologie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite !